Bonjour et bienvenue. Il y a un siècle, Paris était le centre du monde sportif. Aujourd'hui, on va remonter le temps, direction les Jeux Olympiques de 1924, mais pas avec un livre d'histoire classique.
Non, notre guide est une source assez unique. C'est un article vraiment fouillé, tiré du bulletin du Carto Club Aveyronnais.
C'est ça. Et il faut absolument citer les auteurs.
Absolument. L'article est signé Pierre Dumont, qui a aussi fait un diaporama passionnant sur le sujet. Et la mise en page, très soignée, est de Guy Mazard.
Ce qui est génial, c'est que tout est vu par le prisme de la cartophilie, l'étude des cartes postales.
C'est une porte d'entrée complètement inattendue qui nous révèle des histoires oubliées.
Exactement. Notre mission, c'est donc de déballer un peu ces histoires. On va explorer ensemble ce qui rend ces jeux si particuliers. Ils sont à la fois incroyablement modernes et en même temps porteurs d'un idéal presque archaïque.
Un idéal qu'on a peut-être un peu perdu, oui.
On va explorer cette tension, des stades de Paris jusqu'aux pistes glacées de Chamonix, où se sont tenus les tout premiers Jeux d'hiver. C'est parti.
Alors, pour bien saisir l'enjeu de 1924, il faut se mettre dans la tête de Pierre de Coubertin. Pour lui, les Jeux de Paris en 1900, c'était un fiasco.
Ah oui, au carré, à ce point.
Un désastre. Les épreuves étaient complètement noyées dans l'exposition universelle, sans âme, sans vrai stade. Donc pour lui, 1924, c'est sa chance de rédemption. Il veut offrir à la France une vraie, une grande célébration de l'olympisme, avant de prendre sa retraite.
Une rédemption, donc. Et aussi un symbole fort dans une Europe qui sortait à peine de la guerre. Et cette ambition, elle se vaut dans des innovations assez...
assez spectaculaires pour l'époque, oui. L'article mentionne par exemple la création du tout premier village olympique.
Voilà. Qu'est-ce que ça représentait concrètement? On est loin des standards actuels, j'imagine.
Ah oui, très loin. L'article de Pierre Dumont décrit des baraquements en bois à Colombes, avec des simples allées en terre. C'était rustique, quoi. Mais l'idée, elle, était révolutionnaire.
Rassembler tous les athlètes au même endroit.
C'est ça. Le début de la communauté olympique. Mais la vraie révolution, la révolution technologique, c'est l'arrivée du son.
La fameuse TSF, la télégraphie sans fil, l'ancêtre de notre radio.
Exactement. Pour la première fois, on commente les épreuves en direct. Les Jeux cessent d'être un événement purement local. Ça devient un spectacle médiatique, une histoire qu'on raconte au monde entier, presque en temps réel.
Et qui dit histoire dit héros. L'article met en lumière des personnages qui semblent sortis d'un roman. Le premier qui m'a marqué, c'est Johnny Weissmuller. On le connaît tous comme Tarzan, mais son histoire olympique est rocambolesque.
C'est un cas d'école. Weissmuller est né dans l'Empire austro-hongrois. Il n'est donc pas citoyen américain.
Attendez, comment il a fait pour participer alors?
Eh bien, il a utilisé les papiers de son jeune frère, qui lui était né aux États-Unis. Une fraude pure et simplement. Il rafle 3 médailles d'or en natation et cette histoire reste complètement sous silence.
C'est incroyable.
Et ce qui est fascinant, c'est que les cartes postales de l'époque, celles que collectionnent les membres du Carto Club, le montrent comme un héros américain pur jus. Le média de l'époque construit le mythe.
La carte postale comme outil de storytelling en quelque sorte. L'autre histoire mythique, c'est évidemment celle des chariots de feu. L'article la raconte très bien. Eric Liddell, l'Écossais ultra pieux.
C'est une histoire de conviction, ça. Il apprend que les séries du 100 mètres, sa spécialité, ont lieu un dimanche. Pour lui, le jour du Seigneur, c'est sacré. C'est non.
Il refuse de courir.
Il renonce. On lui propose de s'aligner sur le 400 mètres, une distance pour laquelle il n'est, mais alors absolument pas préparé. Il accepte, s'entraîne en quelques semaines à peine et contre toute attente, il pulvérise le record du monde et gagne la médaille d'or.
C'est fou. Et ce qui rend l'histoire encore plus belle, c'est qu'en parallèle, son rival Harold Abrams, lui, remporte le 100 mètres.
Exactement. Et lui se battait contre l'antisémitisme de l'establishment britannique. Deux athlètes, deux combats très personnels et deux médailles d'or pour la même délégation. Ça incarne parfaitement cet idéal olympique.
Mais à côté de ces destins presque spirituels, on trouve aussi des démonstrations de force brute. Je pense à l'haltérophile français Charles Rigoulot.
Ah, l'homme le plus fort du monde. L'article le surnommait comme ça. Et pour le coup, c'était pas usurpé.
À ce point.
Son nom est même passé dans la langue anglaise. Les fameux haltères à grosses boules, vous voyez. On appelle ça des Rigolobars en son honneur. Une immense vedette.
Et une autre force de la nature, mais sur la piste d'athlétisme, c'est le Finlandais Paavo Nurmi.
Alors là.
Là, il faut qu'on s'arrête 2 minutes sur sa performance. Les chiffres que donne l'article sont délirants.
C'est ça. Le 10 juillet, il gagne la finale du 1500 mètres. Record olympique.
Et moins d'1 heure plus tard, il est de retour sur la piste pour la finale du 5000. et il la gagne aussi.
55 minutes. 55 minutes entre les deux. Avec un deuxième record olympique à la clé. C'est une performance qui dépasse l'entendement.
Mais comment c'est possible, physiologiquement? Le public a dû être médusé.
Complètement. Nurmi faisait partie des Finlandais volants. On s'attendait à des exploits, mais pas à ça. Il devient une légende vivante. Les cartes postales de lui, le visage impassible, s'arrachent. Il incarne l'athlète moderne, presque scientifique.
Mais tout n'était pas si glorieux. L'article raconte aussi un des plus gros fiascos de ces Jeux. La finale de rugby à 15. France contre États-Unis.
Un moment très, très sombre. La France est ultra favorite. Elle joue à domicile, à Colombes.
Et elle se fait humilier.
Écrasée, 17 à 3, par une équipe américaine que personne n'attendait. Mais le pire, c'est la réaction du public.
L'article parle de supporters américains frappés à coups de canne.
D'injures, c'est une véritable émeute. Une explosion de nationalisme. Le public n'accepte pas la défaite. Le fiasco est total sur le terrain et dans les tribunes.
Et la conséquence est radicale, c'est ça qui est fou. Ce seul match a banni le rugby des Jeux pendant presque un siècle.
Exactement. Le rugby à 15 est retiré du programme. Il a fallu attendre le rugby à 7 en 2016 pour le revoir. C'est un rappel brutal que les Jeux peuvent aussi être le théâtre des pires passions.
C'est une histoire qui tranche radicalement avec une autre découverte que j'ai faite dans cette source. Et là, je suis tombé de ma chaise. J'ai lu l'expression « pentathlon des muses ».
Ah, ouais.
J'ai cru à une blague. On pouvait vraiment gagner une médaille d'or en littérature.
Ah, mais oui. Et pas seulement. Il y avait des compétitions officielles avec médailles en architecture, sculpture, peinture et musique. C'était une volonté directe de Coubertin. Pour lui, l'olympisme devait célébrer l'être humain dans sa totalité, le corps et l'esprit.
C'est dingue d'imaginer un peintre sur un podium olympique. Et Coubertin lui-même a participé, c'est ça?
Il a gagné la toute première médaille d'or de littérature en 1912, sous un pseudonyme, pour son ode au sport.
Incroyable!
Mais en 1924, c'est un peu le chant du cygne. Ces épreuves seront supprimées en 1948 à cause du professionnalisme des artistes. Exactement ça. 1924, c'est la ligne de crête entre deux mondes. Et d'ailleurs, pour documenter tout ça, l'article met en avant un photographe, Armand Noyer.
Oui, il a produit 462 cartes postales différentes.
Et grâce à la technique de la carte photo, un cliché pris, disons, de Nurmi franchissant la ligne, pouvait être dans une boîte aux lettres en Angleterre 5 jours plus tard.
C'était l'Instagram de 1924, en fait.
C'est exactement ça. Le partage quasi instantané de l'émotion visuelle.
Toute cette effervescence de l'été parisien, elle a en fait une origine, une sorte de prologue qui s'est joué quelques mois plus tôt, en janvier, dans le froid des Alpes.
Oui, direction Chamonix. Et à l'époque, on parle même pas de Jeux Olympiques. L'événement s'appelle la Semaine internationale des sports d'hiver.
Ah d'accord, donc c'est une requalification a posteriori.
Tout à fait. L'idée était poussée par les pays alpins, mais les Scandinaves, qui avaient leurs Jeux nordiques, y étaient très opposés. C'était un pari.
Un pari réussi, apparemment. L'article parle de plus de 10 000 spectateurs.
Un succès immense, oui. Si bien qu'en 1926, le CIO requalifie l'événement. Mais pour en arriver là, Chamonix a dû construire une piste de bobsleigh, un tremplin de saut à ski et ce qui était la plus grande patinoire artificielle du monde à l'époque.
Et là aussi, des disciplines improbables comme le ski militaire, l'ancêtre du biathlon.
C'est ça, une patrouille de 4 militaires, 30 km à ski avec du dénivelé, puis une épreuve de tir. L'équipe de France, menée par Camille Mandrillon, celui qui a prononcé le serment olympique, a fini 3e.
À côté de ça, on a des dominations totales. Les chiffres de l'équipe canadienne de hockey sur glace.
Les chiffres sont ahurissants.
122 buts marqués, 3 encaissés.
En 5 matchs, c'est une autre dimension. Ils ont battu la Suisse 33 à 0. On est loin de l'équilibre compétitif d'aujourd'hui, quoi.
Et puis, il y a l'histoire la plus étrange. Une médaille d'or en alpinisme. Comment c'est possible, Fazi? Ils n'ont pas fait une course sur le Mont Blanc?
Non, pas du tout. La médaille a été décernée aux membres de l'expédition britannique de 1922 à l'Everest. Ils n'étaient même pas là. Le CIO a voulu récompenser leur exploit, celui d'avoir atteint plus de 8300 mètres sans oxygène.
On récompense l'accomplissement humain, pas juste la compétition.
C'est un idéal qui a complètement disparu aujourd'hui.
Ça en dit long. Mais l'histoire la plus touchante de chez Monique, celle qui me le plus interpellé, c'est celle du sauteur à ski américain Anders Hogan.
Une histoire de persévérance incroyable. À Chamonix, une erreur de calcul dans les notes le classe 4e, au pied du podium. Il est convaincu qu'il méritait la 3e place.
Et il n'abandonne jamais.
Jamais. Pendant des décennies, il cherche des preuves, il contacte des historiens, des officiels.
Pour obtenir justice, 50 ans plus tard.
50 ans. En 1974, un historien norvégien retrouve enfin les fiches de pointage, refait les calculs et confirme l'erreur. Une cérémonie est organisée et Anders Hagen, à 83 ans, reçoit enfin sa médaille de bronze.
50 ans. C'est l'histoire d'une vie. C'est une histoire magnifique sur la ténacité d'un homme, mais ça en dit long aussi sur la faillibilité des instances sportives, non ?
Absolument. C'est une histoire à deux facettes, la gloire de l'athlète et, quelque part, l'échec du système.
Alors au final, que retenir de tout ça ? En refermant cet article, l'image qui reste de ces Jeux de 1924, c'est vraiment celle d'un monde en pleine mutation.
Oui, si on relit tous ces points, de Tarzan, le faux américain, au poète médaillé d'or, du fiasco du rugby à la justice tardive pour Hagen, on voit une Olympiade à la croisée des chemins.
D'un côté, une ambition de modernité.
Oui, la TSF qui annonce le spectacle global, le village olympique qui professionnalise l'accueil, et de l'autre, des idéaux hérités du 19e siècle, presque surannés, comme les concours d'art ou les médailles d'alpinisme.
1924 a donc posé les fondations du gigantisme moderne.
Tout en offrant un dernier regard sur une forme de poésie et d'amateurisme qu'on ne reverra plus jamais.
Et ça nous laisse avec une question pour la suite, en fait. L'article de Pierre Dumont conclut en notant que, très vite, l'idéal de Coubertin a été rattrapé par le professionnalisme, le nationalisme. La question qui se pose un siècle plus tard, c'est est-ce que, en voyant les enjeux financiers et géopolitiques colossaux des Jeux d'aujourd'hui, est-ce que les craintes de Coubertin se sont simplement réalisées ou est-ce que son idéal d'un sport pur et apolitique était, dès le départ, une utopie magnifique, mais totalement déconnecté du monde réel.